Chapitre 55. Nietzsche resserra autour d'elle les pans de son manteau. S'appuyant sur un merlon, elle se pencha pour mieux voir la route qui serpentait des centaines de pieds en contrebas. Campée sur le chemin de ronde depuis un bon moment, la magicienne observait la progression de quatre cavaliers qui se dirigeaient résolument vers la forteresse. Même s'ils étaient encore loin, elle n'avait plus guère de doute sur leur identité. Bâillant à s'en décrocher la mâchoire, Nietzsche jeta un regard circulaire à Heidendrill, la ville désormais déserte, et à la forêt qui s'étendait au-delà. Les couleurs chatoyantes de l'automne se ternissaient déjà, soulignant l'imminence de l'hiver. Comme toujours, contempler la nature ramena Richard à l'esprit de Nietzsche, en admettant qu'il n'y était pas toujours présent. Richard aimait les arbres. Grâce à lui, l'ancienne maîtresse de la mort, une citadine endurcie, en était venue à les aimer aussi. Depuis qu'elle les observait, elle leur trouvait des qualités qui ne l'auraient pas frappé de prime abord. Témoins silencieux des drames humains, ces grands végétaux marquaient imperturbablement le passage du temps et l'alternance des saisons. Ces phénomènes naturels, depuis peu, avaient pris une toute autre valeur aux yeux de Nietzsche. En étudiant le livre de la vie, elle avait appris que tout était lié dans l'univers et cette découverte bouleversait sa vision du monde. L'ouvrage insistait tout particulièrement sur la façon dont le pouvoir d'Ordaine, pourtant porteur de désastres potentiels, était intimement lié au monde de la vie. La planète, les saisons, les étoiles et la position de la Lune faisaient partie de l'équation. Avec d'autres facteurs, ces données alimentaient la magie d'Ordaine et, sous certaines conditions, la commandaient. Plus elle étudiait, approfondissant ses connaissances et développant son intuition, plus la magicienne sentait battre autour d'elle le pouls régulier du temps et de la vie. Accessoirement, elle avait à présent la certitude que Richard s'était exténué à apprendre par cœur une fausse clé. Pour l'instant, Nietzsche gardait pour elle cette conviction. Devant Z, elle aurait eu du mal à la défendre et de toute façon, une telle démarche lui semblait être une perte de temps. L'essentiel n'était pas ce que disait le livre de la vie, mais la façon dont les choses étaient formulées. Lorsqu'on travaillait sur une langue étrangère, ces nuances laissaient souvent de marbre les gens qui ne s'immergeaient pas dans l'ouvrage. Avec sa logique de fer, Z aurait objecté à Nietzsche qu'elle ne pouvait pas comprendre aussi bien le haut d'Aran. Mais le livre, en réalité, parlait une langue sans rapport avec cet idiome, ni aucun autre pour ce qu'en savait sa traductrice. C'était le langage de la magie. Un iceberg dont les formules, les équations et les sortilèges représentaient la minuscule partie visible. Sur bien des points, l'expérience que vivait la magicienne lui rappelait ce que Richard déclarait au sujet du langage des symboles et des emblèmes. Pour saisir ce qu'il voulait dire, il fallait vivre une expérience similaire. Aujourd'hui, Nietzsche tenait un certain nombre de signes mathématiques, souvent utilisés dans les formules, pour les mots d'une langue mystérieuse qu'elle apprenait lentement et un peu comme un très jeune enfant sans réellement s'en apercevoir. Chaque jour, le livre de la vie forçait Nietzsche à modifier sa vision du monde. En cela aussi, elle se sentait proche de Richard, qui avait toujours regardé son environnement à travers le prisme de l'enthousiasme, de l'émerveillement et de l'amour. En un sens, cette naïveté apparente était une manière de prendre et d'aimer les choses pour ce qu'elles étaient, sans nécessairement les plier à ce que l'imagination humaine aurait bien voulu en faire. Contrairement à tous les autres grimoires qu'avait étudié la magicienne, le livre de la vie associait la magie additive et son opposé, la magie soustractive. En d'autres termes, cet ouvrage traitait du tout, ou mieux encore, de la totalité. Cette caractéristique compliquait encore les choses lorsqu'il s'agissait de dialoguer avec Z. Si puissant qu'il fût, le premier sorcier ne contrôlait pas la magie soustractive et cela lui interdisait de comprendre vraiment le texte dont l'ancienne maîtresse de la mort s'imprégnait de plus en plus. Si elle pouvait expliquer les formules, détailler les protocoles et analyser les sortilèges, elle n'avait aucun moyen d'ouvrir l'esprit du vieil homme à un monde qui lui restait à tout jamais étranger. Intellectuellement, Z pouvait saisir de quoi il s'agissait, mais il n'irait jamais au-delà de cette phase condamné à rester sur le seuil de cet extraordinaire univers. Dans le même ordre d'idées, certaines personnes mesuraient la valeur de l'amour, comprenaient sa vertigineuse profondeur et savaient très exactement comment ce sentiment influençait la vie des gens. Mais si elles n'avaient jamais aimé, Ce savoir académique ne leur servait à rien, si pleines de bonnes intentions qu'elles fussent. Quand on ne sentait pas la magie, il était vain de prétendre la connaître. Nietzsche savait intuitivement que Richard avait mémorisé une fausse clé. Son postulat d'origine était juste, bien entendu. Si celui qui remettait les boîtes dans le jeu utilisait mal la bonne clé, les artefacts devaient disparaître avec lui. Mais cet exemple de logique élémentaire n'aurait pas suffi à convaincre un esprit aussi rebelle que celui de Nietzsche. Pour étayer son intuition, elle avait littéralement disséqué le protocole de remise dans le jeu des boîtes d'Orden, et la réponse était incontournable. Un mauvais usage de la bonne clé impliquait la destruction définitive des boîtes. Grâce au livre qui explorait en détail les mécanismes de la magie, Nietzsche parvenait peu à peu à comprendre comment le pouvoir d'Orden était censé agir sur le monde. Lorsqu'on dépassait le stade de la fascination ou de la terreur, on saisissait pourquoi cette magie particulière, dès qu'on l'invoquait, exigeait le recours à une clé fiable. En d'autres termes, l'équivalent d'un sort de protection, ou dans le monde profane, du cran d'arrêt pour un couteau à la lame rétractable. En cas d'erreur du joueur, à savoir le téméraire qui mettait ou remettait dans le jeu les boîtes d'Orden, la vraie clé avait pour fonction ultime de tuer l'exécutant maladroit et de détruire les artefacts dont il faisait mauvais usage. Comme la vie, la magie n'admettait pas qu'on viole impunément ses lois naturelles. Pouvait-on lancer une pierre et espérer, sans influence extérieure ou intervention spéciale, qu'elle reste en suspension dans l'air au lieu de retomber sur le sol? En aucun cas. Eh bien, dans le même ordre d'idées, la magie d'Orden fonctionnait selon des lois physiques incontournables, et lorsqu'on comprenait ces lois, l'équation erreur-destruction devenait d'une aveuglante évidence. Lorsque Richard avait récité devant Darkenral ce qu'il croyait être le texte du grimoire des ombres recensées, il avait recouru à une ruse pour inciter son sinistre géniteur à ouvrir la mauvaise boîte. Une louable intention, mais de toute manière, la tentative du défunt seigneural était vouée à l'échec. S'il avait utilisé la vraie clé et commis avec elle une erreur grossière, Darkenral serait mort de la même façon, mais les trois artefacts l'auraient accompagné dans le néant. Une fausse clé, intelligemment utilisée par un truqueur de génie, une excellente définition de ce qu'était Richard en ce temps-là, pouvait tuer le joueur, certes, mais en aucun cas entraîner la destruction des boîtes. À cette lumière, on pouvait avancer sans trop de risques que les cinq copies étaient en quelque sorte le cran d'arrêt du cran d'arrêt, ou encore le sort de garde d'un charme de protection. Les boîtes d'Orden avaient été conçues pour neutraliser un sort d'oubli baptisé la chaîne de flamme. Une utilisation de la mauvaise clé signifiait qu'un joueur mal intentionné et dépourvu de connaissances requises tentait de s'approprier le pouvoir d'Orden. Au fil du livre de la vie, Nietzsche avait découvert que les créateurs des boîtes ne s'étaient pas voilé la face devant cette menace. Non content de prévoir des fausses clés pour abuser les usurpateurs les moins doués, ils avaient intégré au processus un sort de protection totalement destructeur, la négation même de ce qu'ils avaient tellement peiné à imaginer. Mais en matière de magie, la règle était souvent tout ou rien. Par exemple, pour arracher Nietzsche à la mort, Richard avait dû désactiver et détruire la toile de vérification qui l'emprisonnait. Tout se tenait désormais. La tête sur le billot, Nietzsche aurait continué à jurer que le futur sourcier avait mémorisé un texte erroné, une fausse clé tout simplement.
« Qui approche ?» demanda soudain Z dans le dos de Nietzsche.
La magicienne se retourna et sourit au vieil homme. Pour l'heure, elle allait devoir chasser de ses pensées le sujet qui la hantait jour et nuit. Si elle parlait à Z, il se lancerait dans une polémique comme d'habitude et l'heure n'était plus aux querelles de principe. À part Richard, personne n'avait besoin de savoir la vérité au sujet de la clé.
« Quatre cavaliers !»
répondit Nietzsche à la question du vieux sorcier. Z se pencha à son tour et sonda brièvement la route.
« On dirait bien que Tom et Friedrich sont de retour, » marmonna Kara. Et qu'ils ont mis la main sur des intrus.
J'en doute fort, dit Nietzsche. S'il s'agissait de prisonniers, on ne verrait pas les armes du grand type briller au soleil.
Tom n'est pas du genre à laisser ses lamas à un ennemi. De plus, l'autre cavalier m'a l'air d'être une petite fille.
Rachel ? Demanda Zed en plissant les yeux pour mieux voir entre les feuilles des arbres.
Encore quelques jours et ses ornements mordorés auraient disparu, marquant le véritable début de l'hiver.
Tu crois que c'est elle ?
J'en ai bien l'impression.
Le vieil homme tourna la tête et étudia de pied en cap la magicienne.
Tu es affreuse, très chère.
Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'une femme aime entendre de la bouche d'un galant admirateur.
Oh, diable la galanterie! Depuis quand n'as-tu pas posé ta tête sur un oreiller?
Bonne question. Au début de l'été, peut-être, quand je suis revenu du palais du peuple avec un petit livre à traduire.
Comme d'habitude, la plaisanterie de Nietzsche fit long feu. Dès qu'elle tentait d'être drôle, les gens la regardaient avec des yeux de merle en frit, comme Kara à l'instant même.
Où en es-tu, au fait? J'aurais bien besoin de votre aide pour certains calculs astrologiques. Si quelqu'un les fait à ma place, j'avancerai beaucoup plus vite, et je pourrais me pencher sur certaines difficultés de traduction.
Zed tapota gentiment le dos de la magicienne.
Je suis ton homme, à une condition.
Laquelle?
Demanda Nietzsche entre deux bâillements.
Que tu ailles dormir un peu.
D'accord, Zed. Mais avant, nous devrions aller voir qui sont nos visiteurs.
Zed, Kara et Nietzsche déboulèrent dans la cour intérieure au moment où les quatre cavaliers y entraient. Derrière Tom et Friedrich, Chase et Rachel avançaient au pas. La fillette était à moitié tondue, une surprise quand on savait à quel point elle aimait sa belle crinière blonde, et Chase paraissait dans une forme étincelante pour quelqu'un qu'on avait blessé avec l'épée de vérité.
« Chase !»
s'écria Zed.
« Tu es vivant !»«
C'est préférable pour monter à cheval, non ?»
Kara ne put s'empêcher de glousser. Agacé, Nietzsche se demanda d'où cette fichue mordocite tenait son soudain sens de l'humour.
« Nous avons rencontré nos amis sur le chemin du retour, » dit Tom. « Voilà des mois que nous n'avions pas croisé quelqu'un dans les parages. »
« Revoir Rachel a été un plaisir, » ajouta Friedrich.
À la lueur attendrie qui brillait dans son regard, on ne pouvait pas se méprendre sur sa sincérité. Zed prit la fillette dans ses bras dès qu'elle eut sauté de sa selle.
« Mais ce que tu as grossi !»
s'exclama-t-il.
« Chase m'a sauvé, tu sais. Il a été si courageux, tu aurais dû voir ça. Tout seul contre 100 hommes, et il les a tous tués. »
« Tu as transpercé la jambe d'un de ces types, »
la corrigea Chase tout en mettant pied à terre.
« Sans toi, je n'en aurais eu que 99. »
Pressée d'être posée à terre, Rachel donna des coups de pied dans le vide.
« Zed, je t'apporte quelque chose d'important. »
Dès que le vieil homme l'eut lâché, la petite alla récupérer le sac de cuir attaché au pommeau de sa selle. Elle en sortit une boîte plus noire que la nuit et revint vers ses amis. Soudain glacé, Nietzsche eut l'impression de replonger son regard dans les yeux obscurs de Jagang.
Où as-tu cette boîte ?
Demanda Zed stupéfié.
Samuel, l'homme qui porte l'épée de Richard, l'avait avec lui quand il m'a enlevé après avoir frappé Chase. Plus tard, il l'a remise à la voyante Sis et à Violette, la nouvelle reine de Tamarang. Enfin, jusqu'à ces derniers temps, parce qu'elle a perdu sa couronne, je crois. Si, c'est un monstre, Zed. Tu ne peux pas t'imaginer.
J'ai peur d'avoir ma petite idée, ma chérie.
Ayant quelques difficultés à suivre l'histoire de Rachel, Zed baissa les yeux sur la boîte d'Ordaine, histoire de se convaincre qu'il n'avait pas la berlue. Après des semaines passées à étudier et traduire le livre de la vie, voir une boîte d'Ordaine avait coupé le souffle de Nietzsche. Si la théorie était une chose, la cruelle réalité en était une autre et elle en faisait une fois de plus l'expérience.
« Quand je me suis échappé, j'ai eu l'idée de voler la boîte comme la première fois. »«
Tu as bien fait, chère petite, »
approuva Zed.
« J'ai toujours su que tu étais une personne très spéciale. » »«
Si ça a obligé Violette à dessiner des images de Richard. J'étais mort de peur rien qu'à les voir faire. »
« C'était dans une grotte ?»
demanda Zed.
La fillette acquiesça.
Eh bien, ça explique pas mal de choses.
As-tu vu Richard ?
S'enquit Nietzsche.
Non. Si, c'est parti un beau jour. Quand elle est revenue, elle a dit que l'ordre impérial lui avait volé son prisonnier. Bien entendu, il s'agissait de Richard.
L'ordre impérial ?
Répéta Z. Nietzsche se demanda ce qu'il fallait craindre le plus. Une voyante ou l'empereur Jagang ? La réponse était évidente. Privé de son pouvoir et de son arme, Richard aurait été moins en danger entre les griffes de Six, malgré tout le mal qu'on devait penser d'elle.